Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et depuis 2018, j'accompagne les freelances, solopreneurs, entrepreneurs indépendants, bref, toute personne qui pilote son business seul, à progresser dans toutes les facettes de cette aventure entrepreneuriale. Dans cet épisode du podcast, j'ai le grand plaisir de recevoir Julie Fabre de l'autre côté de mon micro. Julie est freelance depuis maintenant plus de 10 ans et elle s'est lancée en tant que rédactrice web en 2010. Aujourd'hui, elle est plus seule à la barre car fin 2019, elle s'est associée avec Julia Couder, que j'ai reçue dans l'épisode 22 de ce podcast, pour ensemble fonder GNG autour de contenu et de pédagogie pour les entrepreneurs du web. Pendant notre conversation, on retrace ensemble l'historique de toutes ces collaborations, depuis les premières en travaillant ensemble sur des missions de freelance, jusqu'à son association avec Julia, pour faire émerger toutes les leçons importantes qu'elle en retient. Pour, comme dit le titre de cet épisode, quitter le mode solo et vivre l'aventure de l'indépendance à plusieurs. On y parle donc de prestations groupées, sous forme de collectif, en facturant de différentes manières. On parle aussi du fait de déléguer une partie de nos missions à d'autres freelances, puis de la gestion de notre entreprise, déléguer des parties de notre entreprise, et aussi des péripéties du fait de s'associer et de créer une société à deux. Un épisode que tu verras est riche autant dans son contenu que dans sa philosophie, et je suis très fier de vous partager aujourd'hui, avec en bonus, la bonne humeur légendaire de Julie. Et si tu veux creuser plus loin sur tous ces sujets pour ta vie d'indépendant, je t'invite à me rejoindre dans ma newsletter hebdomadaire où je m'attelle à décortiquer et rendre le plus pédagogique et synthétique possible toutes les facettes importantes de ton activité. Tu peux rejoindre et t'abonner à la newsletter sur thomasburbidge.com/newsletter. Et sur ce, je te laisse te plonger dans l'épisode du jour et on se retrouve à la fin. Bonne écoute. Bienvenue sur le podcast, Julie.
Et merci. Salut Thomas.
Très content de discuter avec toi. J'ai fait une petite
contexte assez marrant. J'ai fait une petite story à un moment en disant « Ouais, il y a la saison 5 qui arrive, qui est-ce que vous voulez voir ?» etc. Et il y a deux personnes. Déjà, il y a Julia qui m'a mis un message en mode « Julie, elle toute seule ». Et du coup, je me disais « Ah, quand même !» Parce que maintenant, on complète le duo G&G sur le podcast. Et il y a une autre personne qui m'avait dit qu'elle était très curieuse de t'entendre parler de ça aussi. Je me souviens plus exactement qui c'est, elle se reconnaîtra peut-être en nous écoutant. Mais très, très, très heureux de
t'entendre. Cool. Je suis très heureuse aussi, ça me fait très plaisir.
Cool, trop bien, trop bien. Je te propose du coup qu'on enclenche par directement la première question. Et ensuite, j'aurai une petite histoire à raconter une fois que tu auras complété ça. mais la première question, c'est comment, mais surtout pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante ?
Alors, pourquoi ? C'est un peu par hasard. Très honnêtement, j'avais pas d'ambition d'indépendance au départ. Quand j'ai fini mes études, j'étais un peu perdue sur le chemin que j'allais prendre, ce qui me faisait envie, ce qui était possible pour moi. Les portes étaient, enfin, si tu veux, les signaux n'étaient pas tous ouverts dans une direction. J'avais des choix qui m'inspiraient plus ou moins. Et j'étais partie pour passer le concours de bibliothécaire.
Okay.
Ce qui n'a absolument rien à voir avec la vie que je mène aujourd'hui. Et tu vois, avec le recul, je me dis que aujourd'hui, avec le tempérament que j'ai, la personnalité finalement qui s'est affinée aussi avec le temps, parce qu'on n'a jamais une personnalité aboutie, mais avec le chemin que j'ai pris et tout, je me dis que si j'avais dû être tous les jours dans une bibliothèque, dans le calme absolu, et tu sais tout ce que ça implique, je pense que je serais pas vraiment à ma place. Donc, le destin a fait que j'ai croisé le chemin, d'un entrepreneur qui lui aussi avait switché un petit peu de vie et avait quitté un grand poste pour se lancer à son compte et créer des sites web. Et il avait du mal sur la partie rédaction, surtout au départ la partie orthographe, mais après la partie rédaction est venue très très vite. Donc je lui ai simplement filé un coup de main. Moi j'avais un job alimentaire à l'époque et je commençais à travailler ce concours. Et finalement, il m'a ouvert les yeux très très vite en me disant « Tu sais, je pense que tu as un don, entre guillemets, un talent pour ça. C'est un métier qui n'existe pas encore. Et forcément, si moi, acteur du web, j'ai besoin de rédaction, forcément, tout plein d'acteurs du web autour vont en avoir besoin. » Donc, je me suis formée à ce métier. Et finalement, pour le tester, le moyen le plus simple, c'était de me mettre en statut auto-entrepreneur. Et c'est comme ça que j'ai pris le chemin de l'entrepreneuriat il y a plus de 10 ans. Mais sans réelle, tu vois, conviction et ambition.
Ah ouais, trop intéressant. Je ne mesurais pas l'histoire derrière et le fait qu'à la base, tu étais voué à la bibliothèque. C'est très drôle. mais c'est marrant parce que ce dont je voulais qu'on parle ensemble aujourd'hui, c'est l'angle que j'ai un peu mis dans ma fiche Notion, c'était quitter le mode solo pour s'associer. Mm-hmm. Mais ce que j'entends, c'est qu'en fait, tu n'as jamais vraiment eu... le côté solo, en fait. Genre, directement, c'est une rencontre qui fait que tu te lances et t'es déjà plus ou moins engagé avec quelqu'un dans l'aventure dès le début, quoi. Même si, effectivement, j'ai l'impression que c'était plus un profil client, mais avec qui tu discutais beaucoup, etc.
Ouais, complètement. C'était un profil pote et qui est devenu mon premier client et que avec qui j'ai travaillé pendant plus de 8 ans. Mais au final, mon statut, il était vraiment indépendant quand même. J'ai dû trouver mes propres clients aussi toute seule. Mais surtout, en parallèle, j'ai dû me former en autodidacte à mon métier. Métier que j'ai inventé parce qu'à l'époque, il était voué à exister. Mais à l'époque, il n'était pas identifié en tant que tel. Il n'y avait pas de formation en tant que tel. Tu vois, donc j'ai dû faire à ma sauce, mettre les mains dans le cambouis. J'ai trouvé quand même des personnes, tu vois, en SEO notamment, qui avaient un bagage solide et qui étaient OK pour me former. Donc, j'ai suivi plein de choses. J'ai lu énormément de choses. J'ai travaillé de mon côté. J'ai expérimenté. Et c'est comme ça que j'ai appris mon métier.
Ouais, c'est trop intéressant. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la rédaction web et la partie SEO et tout, il y a même des formations pour faire ça spécifiquement en freelance avec des personnes qui sont bien installées dans le milieu qui transmettent ça. Mais c'est vrai que, du coup, ça c'est en 2010 que tu te lances.
Bon,
j'imagine que l'écosystème était bien moins mature et complètement différent, quoi.
Exactement.
Ok. Et du coup, je suis curieux que tu nous racontes un peu les débuts. Donc, tu commences, tu as cette rencontre, ce gars qui te dit « Ouais, t'as un truc à faire, fonce. » Tu commences à te former, à bosser avec lui. Ça se passe comment tes toutes premières missions parce que pareil, si l'écosystème est moins mature sur la partie rédaction, c'était aussi le cas sur le freelancing au sens général. En 2010, il n'y avait pas toutes les plateformes qu'il y a aujourd'hui. Enfin, voilà, il n'y avait pas tout ça.
Exactement.
Donc, je suis curieux déjà de les premiers pas, comment ça s'est passé?
Bah, en fait, déjà, il y avait vraiment ce double enjeu, apprendre mon métier. Donc, sur la partie apprentissage au sens propre du terme, mais l'apprentissage va pas sans l'expérimentation. Donc, j'avais vraiment ce côté formation continue, découverte et formation en même temps. Et à la fois, je comptais quand même dégager du chiffre d'affaires. Donc, il fallait que je trouve des clients. Et c'est là où bah, ce premier client était précieux parce qu'il m'a tout de suite fait confiance. Quand bien même, j'étais pas encore aboutie dans mes compétences. Donc, j'ai vraiment travaillé ces compétences-là en même temps que je bossais pour lui. Donc ça, c'est précieux parce qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus, quoi. Tu vois, ce genre d'opportunité, c'est quand même délicat. Et bah, c'est toujours dû au contexte dont on parlait tout à l'heure, qui est complètement différent de celui d'aujourd'hui. Et bah, du fait que moi, j'habite à Clermont-Ferrand, donc c'est une petite ville quand même qui bouge beaucoup, mais qui est assez petite. Tout le monde se connaît un peu, enfin, en tout cas, très vite, tout le monde se connaît. Et du coup, ben, j'ai réussi à trouver un client local qui est venu compléter ce premier client. Ce qui a fait que d'un point de vue chiffre d'affaires, alors on était loin d'un salaire, tu vois, décent, mais ça m'a permis de rentrer un petit peu d'argent et surtout de prendre confiance en moi, en mes compétences, d'aller expérimenter d'autres univers thématiques, d'autres typologies de clients. Et bah voilà, mes premiers clients, c'était vraiment des clients locaux qui sont venus à moi via le bouche à oreille. Et puis un deuxième volet. J'évite d'employer le mot chance parce que je trouve qu'on peut mettre tout et n'importe quoi dedans. La chance, j'aime pas trop ce mot-là en fait. C'est aussi des opportunités que tu sais saisir et des chances que tu te donnes à toi-même parce que tu fais l'effort de, tu vois. C'est différent que la chance, c'est-à-dire on te sert sur un plateau d'argent. J'ai beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Et du coup, bah, du fait que la place sur la toile était béante en fait, il y avait un espèce de grand vide devant moi, j'ai pu me créer un site vitrine facilement et qui se positionne facilement aussi sur des requêtes assez stratégiques et assez génériques, ce qui pareil aujourd'hui n'est plus du tout le même challenge, et ce qui fait que bah, mon site s'est bien positionné et que j'ai eu des demandes de devis très très rapidement. Et j'ai réussi à générer une activité, à vivre de mon activité, alors pas de manière stable et sereine toujours, ce serait mentir, mais depuis le début que j'ai commencé, j'ai toujours eu des clients.
Et je suis curieux qu'on zoome pendant un moment sur... tu as parlé du fait d'avoir pas mal de clients en local, et je sais que, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas, tu es la deuxième partie de GNG en travaillant avec Julia, et je sais qu'avant de vous associer, on en parlera plus tard, vous avez pendant longtemps bossé ensemble pour beaucoup de clients et que vous avez eu pas mal de clients en local sur Clermont. Et je suis curieux du coup de zoomer un peu plus, déjà peut-être dans tes premières expériences, mais aussi avec Julia. Comment exactement ça se passe? Parce qu'on on peut très facilement dire bouche à oreille, machin, mais je suis curieux de genre si tu arrives à identifier les premiers signaux faibles ou les premières actions qui déclenchent un peu l'effet domino derrière. Parce que pour moi, c'est un vrai vecteur. Le réseau local et les gens autour de nous qu'on croise et qu'on rencontre tous les jours et à qui on parle pas forcément de ce qu'on fait. Et je pense que ça peut intéresser pas mal de gens qui nous écoutent
complètement.
De mieux comprendre exactement les fils de ça.
Ouais. Alors finalement, on dit bouche à oreille, mais le concept de bouche à oreille, il peut fonctionner même d'un point de vue virtuel. C'est-à-dire que le bouche à oreille, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a travaillé avec toi ou qui a eu l'occasion de voir ce que tu faisais et qui en parle de manière positive à quelqu'un d'autre qui a potentiellement ce même besoin. Et c'est vrai aussi sur la toile, même si c'est pas dans le cadre de la géographie et du local, finalement, il fallait à la fois que je me rende visible localement, donc j'ai intégré un espace de coworking qui avait une dimension très collaborative, où il y avait vraiment un écosystème autour de l'entrepreneuriat, principalement sur le web, des acteurs du web, et c'est vrai que j'ai du coup rencontré beaucoup de gens, j'ai pu me rendre disponible et visible, j'ai pu échanger, donc c'est aussi un point d'ancrage qui s'est fait sur la personnalité. Tu vois, j'étais là physiquement, j'ai pu montrer quelles étaient certaines parts de ma personnalité, comment je vivais mon métier, comment je le voyais, et effectivement après l'expérience pure de compétences où j'avais des projets clients à présenter en modèle, comme un portfolio quoi. Ça a beaucoup joué, donc ce réseau local qui a vraiment pris naissance dans cet espace de coworking. Et après, comme je te disais, c'est une petite ville, donc voilà, le coworking plus les réseaux sociaux, plus finalement après ce qui se passait en dehors de moi, en dehors de ma sphère, faisait que mon nom était un peu cité, etc. Et je suis restée dans cet espace de coworking, je ne sais pas, plusieurs années, parce que justement, il y avait une vraie dynamique autour de chaque profil. Il y avait plein de profils différents. Et chacun, voilà, a pu échanger sur son métier et on a pu s'amener en tout cas s'informer les uns les autres sur de potentiels clients intéressants pour les uns et les autres. Ce qui a fait que, ben, tu vois, tu mélanges tout ça, t'agites tout ça, et ça fait très vite des sollicitations. Mais tu vois, je voulais juste faire le parallèle avec ce qui se passe dans la vie virtuelle, parce que, ben, par exemple, avec l'année qu'on vient de passer, où t'avais pas le moyen de te rendre à des meetings ou à des réseaux, des déjeuners ou des soirées coworking, networking plutôt. Finalement, c'est un peu le même principe sur Internet aussi. Il faut être là, il faut se montrer. Alors, se montrer, ça veut pas dire se montrer vraiment physiquement, ça veut dire juste occuper une place, délivrer un message, quel qu'il soit, donner avant tout, parce que je suis pro donner avant de recevoir. Pour moi, ça peut pas marcher dans le sens inverse.
Yes.
Et que bah, du coup, c'est ça qui fait, en fait, savoir... Ouais, je sais qu'on est d'accord. C'est donc être présent, se montrer et se montrer tel qu'on est, parce que de toute façon, si tu essayes de te transformer ou si tu essayes de t'enjoliver, ça ressortira forcément un jour. Donc, tu n'attires décemment pas ton client idéal ou la personne qui te correspond en te transformant. Donc voilà, juste rester soi-même, se montrer et apporter de la valeur, accepter d'être à l'écoute et de répondre aux conseils, aux sollicitations et tout ça. Tout ça fait que tu t'assures une présence à la fois authentique et à la fois de qualité sur ton domaine d'expertise, et que bah, le bouche à oreille, ça se fait de la même manière en ligne que dans un espace de coworking, par exemple.
Ouais, carrément. Ce que je retiens de ce que tu dis, qui est, j'ai l'impression, est le fil conducteur entre les deux, c'est que la base de tout, c'est créer des relations avec des personnes qui, effectivement, de par la relation que tu entretiens, et j'entends ça au coworking de... voilà, il y a des gens qui ont des projets, vous mettez à parler, tu parles de tes projets, ils te parlent de leurs projets, vous vous entendez bien, ça prend une bière sûrement à la fin de la journée de travail, et c'est cette relation-là qui ensuite effectivement nourrit du fait que, ah tiens, t'as des compétences qui peuvent m'aider, moi aussi, viens, on fait un truc, et quand ça match et qu'il y a la première base de confiance entre vous, bah du coup, ouais, ça fait son petit chemin, quoi. Et je pense que c'est ultra précieux pour des gens qui sont au tout début, de se dire... Plutôt que de rester chez moi et juste me dire je vais faire des posts sur LinkedIn ou quoi que ce soit, il faut aller tisser des relations avec des personnes qui sont dans la même dynamique, qui sont dans le même écosystème, qui peuvent potentiellement connaître des gens qui ont aussi besoin de vous. Et de fur et à mesure, cette petite toile, elle fait son chemin, quoi. Et au fur et à mesure, ben, on la nourrit de plus en plus. Et je pense que c'est vraiment la base, quoi.
T'as cité le mot-clé avec le mot relation, c'est exactement ça. Du coup, ça part de la notion de l'humain qui, pour moi, passe avant, finalement, l'aspect technique d'un métier. Et je trouve que c'est encore plus vrai aujourd'hui où, justement, l'écosystème et la famille des entrepreneurs, les acteurs du web, etc., on est de plus en plus nombreux. Et que je pense que les points d'accroche et d'ancrage se font sur ces relations humaines avant toute chose, parce qu'on est plein à avoir des compétences. Et que on peut pas, enfin, je pense qu'on peut pas se dire que en restant dans son coin et en ayant des compétences, ça va fonctionner. Et que du coup, ces relations, si elles sont tissées de manière, encore une fois, saine, vraiment saine, c'est-à-dire que t'es pas là juste pour aller gratter quelque chose ailleurs, mais vraiment pour tisser des relations. Ouais. je suis convaincue que c'est la première pierre de l'édifice, première pierre de tout, en fait, finalement, de la construction d'une image de marque, d'une visibilité en ligne, de l'acquisition client, de la fidélisation client. Je trouve que c'est vraiment la pierre angulaire de tout.
Ouais, c'est clair. Et je pense qu'on a du mal, entre guillemets, à le faire avec les clients, parce que je pense qu'il y a une charge sur c'est quoi la relation entre un prestataire et un client. Je pense qu'il y a beaucoup de freelances qui vivent ça un peu mal au tout début de leur activité, qui sont en mode « Oh là là, client, posture de pouvoir, je dois faire exactement ce qu'il me dit. » Et que du coup, la relation, elle est direct déséquilibrée, en fait. Alors que, moi, je te rejoins à fond, pour moi, il faut vraiment voir ça comme on a une relation d'égal à égal, on court vers un but commun, qui est le fait de, grâce à mes compétences de freelance, je t'aide à aller vers quelque chose, à avoir quelque chose, à aller vers quelque part, disons. Et que moi, du coup, effectivement, je grandis aussi dans mon activité en le faisant et on avance ensemble. Donc, je pense que c'est difficile de le faire avec les clients, tu vois. Je pense qu'on n'a pas l'habitude de se dire, en fait, c'est ça le niveau de relation qu'on veut construire.
Complètement. Surtout au début, en fait. Parce qu'après, ça se fait naturellement. Tu réalises des choses et c'est un cercle vertueux. Alors que quand on débute, on a effectivement, encore plus si on sort, je pense, d'un monde salarié, avec tu sais une hiérarchie très très verticale. Là c'est clair que la transition, le switch mental est plus difficile à faire, et mais de toute façon on passe tous par là, même du coup n'importe qui démarre se pose ce genre de questions ou se met des freins. Et après, les barrières s'enlèvent une à une à mesure qu'on avance et qu'on trouve aussi l'écho, à la fois chez notre client idéal. On parle souvent de ce client idéal, mais c'est un point fort quand même d'une activité, et à la fois dans les projets sur lesquels on a l'occasion de travailler. Et ça affine finalement tout ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas.
Grave. Et l'autre endroit où je trouve c'est hyper important ce niveau de relation. Donc là, on est dans la relation prestataire-client entre freelance et client, mais c'est aussi entre prestataires quand on commence à travailler ensemble. Et je voulais beaucoup qu'on parle de ça tous les deux, parce que je sais que toi, il y a eu une grande phase là quand tu passes de ton activité seule à ce que vous faites aujourd'hui ensemble avec Julia. Mais je suis curieux de... Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as collaboré avec quelqu'un d'autre sur une mission et que tu nous parles un peu de ça et comment ça s'est passé et les apprentissages que tu as tirés aussi de cette toute première collaboration. Je me demande si c'est avec Julia d'ailleurs, c'est peut-être avec quelqu'un d'autre.
Non, ouais, j'avais déjà collaboré sur la partie vraiment, justement, à l'époque, la rédaction web, aujourd'hui ça a changé aussi, et tant mieux, parce que c'était pas si gratifiant que ça. Mais la rédaction web, à la base, c'était quand même un maillon de la chaîne d'une présence web. Quand je dis maillon, ça veut dire que tu exécutes finalement, que l'objectif soit de l'image de marque, du e-commerce par exemple, donc du marketing. Peu importe finalement l'objectif, tu étais un maillon de la chaîne qui était juste retranscrire des contenus, apporter du contenu écrit. Et j'ai eu l'occasion de collaborer justement avec un écosystème plus large, donc une personne qui était chargée du SEO, du SEA, des réseaux sociaux, et une autre personne qui était vraiment placée sur la stratégie à la fois business et à la fois marketing. Et du coup, j'ai pris une part qui était beaucoup plus intéressante et beaucoup plus enrichissante, puisque du coup, je travaillais main dans la main avec eux et je comprenais pourquoi je faisais telle ou telle chose. C'est ce qui a un peu changé. C'est la transition où avant, je faisais les choses dans mon coin avec mes propres croyances, et puis finalement, j'appliquais un brief assez bêtement en injectant toujours ma personnalité et tout, c'est ce qui fait aussi un bon rédacteur, mais j'étais un peu une exécutante, alors qu'après, en prenant part justement à des projets plus globaux et en ayant une position vraiment intégrée dans une stratégie globale et une vision globale, ça a déjà commencé à me générer une appétence en fait pour le travail à plusieurs, le fait de tisser des relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, on s'en fiche. Et donc ça a été mon premier projet, mais j'en tire pas forcément une expérience non plus complètement ouf, parce que c'était du coup là, d'un point de vue humain et individu, il y avait pas un match de dingue. On était vraiment dans des mondes complètement différents. Ça m'a beaucoup enseigné sur mon métier, mais sur le côté humain, j'ai pris moins de plaisir que justement après, quand j'ai découvert Julia par exemple, où on a commencé à travailler. En plus, ça s'est pas fait tout de suite. On a d'abord travaillé ensemble pour le même client, mais nos missions, en tout cas, et notre champ d'action étaient complètement dissociés. On travaillait en parallèle et pas du tout en croisement. Ça a été notre première expérience à deux. Et après, on s'est rendu compte, comme elle était dans le social media management et moi la rédaction web, on a vu qu'on pouvait croiser nos compétences et finalement porter un projet client d'une seule voix, avec toutes nos compétences et donc à quatre mains. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était surpuissant, parce que du coup, on avait non seulement quatre mains, mais on avait deux cerveaux, on avait deux énergies, deux personnalités différentes, etc. Et je trouvais que ça ne pouvait que sublimer, finalement, nos propositions pour ces clients-là. Et c'est là où je me suis dit, c'est quand même trop cool. Donc ouais, j'aime être freelance, j'aime être indépendante, mais j'aime aussi, confronter mes idées, j'aime être boostée. Tu vois, ça a commencé comme ça. Et après, évidemment, on s'est associés et là, ça a pris une toute autre ampleur puisque j'ai rejoint Julia sur un autre business. Mais je sais que tu vas en parler plus tard.
yes, on va y arriver. Mais je suis super curieux du coup de... Tu vois, si on re-regarde ces premières expériences qui ne sont pas une association comme tu as vécu ensuite, et on viendra sur ça parce que je pense qu'il y a des choses différentes qui viennent encore en plus là-dessus. Mais déjà, dans le fait de travailler genre plusieurs freelances ensemble ou plusieurs prestats ensemble pour un même client... Pour les personnes qui nous écoutent, qui n'ont jamais fait ça, qui ont toujours travaillé genre en mode j'ai mes clients et je suis seul, mais qui se disent tiens, j'aimerais bien me mettre à plusieurs, peut-être fonder un collectif ou rejoindre un collectif. C'est quoi les apprentissages que tu as tirés de toi le fait de le faire? Et je sais que tu vas sûrement aller partir sur ce côté relation humaine qui est clairement ouais. hyper important. Mais qu'est-ce que tu dirais des gens qui ne l'ont jamais fait ou qui commencent tout juste, par exemple?
Bah, en fait, je pense que la première chose qu'il faut, en tout cas en termes de posture, je pense que l'idée, c'est de se placer comme... donc, en ayant ce bagage de confiance en soi sur ses propres compétences qui viennent compléter celles des autres, mais il y a aussi une posture d'ouverture à avoir pour justement se nourrir et s'enrichir de ce que vont apporter les autres. L'idée, c'est comme toujours de ne pas être là pour tirer la couverture vers soi, de ne pas être là pour espionner l'autre ou se dire, ah là là, moi j'aurais pas fait comme ça, etc. Le but, c'est à la fois de s'assumer et de prendre une vraie position de chef de son propre champ d'action et de son propre champ de compétences, et à la fois d'être totalement ouvert à tout ce que finalement, en général, les compétences, quand on s'associe comme ça entre freelance, elles sont complémentaires. Et ce mot, il est fort quand même, parce que ça veut dire que du coup chacun peut apporter quelque chose et que la balance finalement prend un autre sens quand il y a d'autres cerveaux, d'autres compétences, d'autres personnalités, d'autres histoires qui viennent se greffer. Et c'est une espèce de magie collective qui fait sens, en fait, à la fois pour le client qui va en bénéficier, à la fois pour l'aspect groupe et à la fois, je pense, pour chaque individu, parce que c'est le principe de la vie. Se nourrir de l'autre, c'est la base, en fait. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on apprend. Et qu'on sait aussi trier ce à quoi on aspire, ce vers quoi on se dit « Ah tiens, ça pourrait m'attirer, mais je sais pas. » Tu sais, ça permet vraiment de réfléchir sur soi et aussi de voir très clairement ce que tu veux pas reproduire ou les choses auxquelles t'adhères pas du tout, tu vois.
Mmh. Ouais, grave intéressant. Et je pense que c'est vrai, c'est important, quand surtout pour... Il y a des personnes qui sont dans ma communauté, dans Inside Freelancing, qui est mon espèce de membership, qui sont en train de s'associer ensemble pour monter un collectif. Et je me dis, putain, c'est trop cool. Elles se sont rencontrées dans une de mes formations. Elles voient leur complémentarité. Elles sont en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de proposer ensemble et tout. Et je me dis, c'est un mouvement qui, comme tu dis, c'est assez naturel, en fait. On se nourrit les uns des autres. On voit qu'on peut potentiellement construire plus grand que chacun dans son coin. Et du coup, on a envie d'œuvrer ensemble. Et je pense que c'est hyper important ce que tu as dit sur à la fois se dire « je sais ce que je fais et je suis là pour le transmettre et aider d'autres à le transmettre. » Et en même temps, le fonctionnement d'autres personnes dans d'autres métiers avec d'autres champs de compétences, c'est tellement riche parce que tous ces différents fonctionnements peuvent m'informer sur peut-être d'autres manières de voir et faire mon métier, d'autres manières d'utiliser mes compétences au service de X, Y, Z. Du coup, cette double posture, je pense, elle est hyper importante. L'ouverture et en même temps, je sais pourquoi je suis là et je sais ce que je veux, quoi.
La confiance, ouais, exactement.
Ça, c'est sur côté humain. Je suis curieux aussi sur la partie peut-être organisation ou offre. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est une question intéressante. La première fois qu'avec Julia, après que vous soyez rendu compte en travaillant sur ce même client que, ah tiens, on peut faire des trucs à quatre mains, ce serait encore mieux. Comment vous avez fait pour penser votre première offre commune? Parce que ça, je pense, c'est différent encore de je crée une offre pour moi et mes services à moi. Et là, on va travailler ensemble et créer une offre commune. J'imagine que ça a été différent.
Ouais. Déjà, on s'expose et là, on va mettre le doigt sur une des limites finalement de ce statut d'auto-entrepreneur. Parce qu'effectivement, c'est compliqué de faire des projets à plusieurs. Parce que finalement, il faut soit que chacun des profils, donc là on va dire Julia et moi par exemple, fasse son propre devis et sa propre facturation individuelle. Et donc ça veut dire qu'il y a deux interlocuteurs auprès du client. Quand c'est deux, ça va. Quand c'est dix, on fait comment? J'en sais rien. Tu vois, ça complexifie un peu les choses. Ouais. Et chacun paye ses charges, voilà. Après, il y a l'autre solution, c'est que l'un des deux freelance fasse la facturation et reverse sa part à l'autre. Mais donc il y a une double facturation, enfin il y a une sous-facturation entre les deux freelances, et donc ça veut dire qu'on fait quand même profiter à l'État deux fois pour une seule prestation, finalement une seule offre commune, on reverse deux fois à l'État. C'est un peu frustrant quand même, surtout quand t'es au démarrage de ton activité et que clairement t'es un peu à l'euro près, c'est frustrant. Donc nous, on a choisi de facturer séparément. Peut-être deux ou trois fois, je me souviens pas, faudrait peut-être interroger la super mémoire d'éléphant de Julia, mais je crois qu'on a déjà essayé de faire une facture commune. Et moi, à l'époque, j'avais aussi, d'ailleurs, je travaille toujours avec elle, hein, je m'étais pris d'amitié et aussi de passion pour la manière dont elle voyait son business, pour une autre rédactrice web qui aujourd'hui habite à San Diego. elle, avant, elle était à Paris. Et en fait, là, pour le coup, comme elle, elle avait une structure un peu différente de mon statut à moi, moi, je facturais pour les deux. Et ensuite, je lui reversais sa part. Et là, je vais le dire publiquement, j'ai fait deux, trois fois ça au black. C'est-à-dire que je lui reversais sa part et on le disait à personne. C'était une toute petite somme, tu vois, c'était pas... Mais voilà, si vous voulez appeler la police, appelez la police. Mais bon, tout ça pour dire que c'est pas le ce statut-là est pas optimal pour ça, c'est clair. Après, je sais qu'il existe un peu des nouvelles choses, c'est-à-dire, je sais plus, il y a un acronyme que j'ai pas retenu et c'est une manière en fait de porter des projets à plusieurs sur une période donnée et que du coup, bah, tu adoptes une espèce de structure temporaire. J'avoue, je sais plus comment ça s'appelle et je sais pas exactement quels sont. Je sais que Freebie avait fait un super article là-dessus. Mais bon, je pense que bah, par la force des choses, le monde avance et il y a de plus en plus de freelance, donc tout ça va être quand même amené à évoluer, j'espère.
Ouais, complètement.
Mais sinon, rien de tel, effectivement, que soit facturer chacun de son côté, soit après de passer à une structure commune, mais là, c'est un tout autre monde.
Ouais, ouais. Et pour ceux qui sont vraiment intéressés par ces mouvements-là, je vous invite à écouter les épisodes du podcast sur les sujets autour des collectifs, parce qu'on a creusé effectivement les différentes formes que ça peut prendre et les avantages et inconvénients des différentes formes et notamment dans la facturation. Mais je suis curieux aussi, du coup, Julie, si tu peux parler de comment vous avez fait pour proposer quelque chose de cohérent en faisant la rencontre de vos différentes prestations. C'est-à-dire que toi, du coup, tu étais sur de la rédaction web SEO, Julia plus sur social media management. Comment vous trouvez une manière cohérente de parler de les deux choses au service d'un but commun pour vos clients?
Ouais. Alors en fait, là, notre exemple, il est très limpide parce qu'en fait, il y avait ma compétence, mon socle de compétences en rédaction, il est venu vraiment se greffer à la partie social media de Julia. C'est-à-dire que elle gérait la partie élaboration de plans de contenu, gestion des outils, mise en place des chartes avec le client, etc. Moi, j'intervenais sur la définition des posts, la rédaction des posts, et ensuite elle reprenait la main sur la programmation. Tu vois, ça c'était notre process classique. Donc pour le client, il y avait très peu d'éducation à faire en fait sur nos rôles respectifs parce que c'était assez évident. Après, quand on a pris des projets où on s'est placé plus en logisticienne de contenu, pareil, chacune avait son pôle d'expertise, ou en tout cas là où elle était la plus pertinente, on se positionnait l'une et l'autre en off, et puis après on présentait les choses au client de manière très limpide, c'est-à-dire, bah voilà, Julia elle va s'occuper de la stratégie des réseaux sociaux, Julie va s'occuper de la stratégie de la newsletter, elle va rédiger et elle va te l'envoyer, c'est toi qui la programme, tandis que pour les réseaux sociaux, une fois que tu as validé la stratégie, on élabore un plan de contenu, Julie rédige, je programme. Tu vois, on était très transparente avec nos clients là-dessus, mais disons que nos champs d'action et nos domaines d'expertise étaient très très clairs finalement à expliquer. Donc je sais pas, après effectivement quand tu prends un projet plus complexe où par exemple il y a le travail d'un graphiste, le travail d'un dev, le travail d'une rédactrice, tu vois, le travail de, je sais pas, une campagne influenceur, c'est peut-être plus délicat à orchestrer et à présenter de manière globale au client pour qu'il comprenne bien qui fait quoi et quels sont ses intérêts en face de chaque casquette. Mais dans tous les cas, je pense que le dénominateur commun entre tous ces scénarios-là, c'est de, pour moi toujours, hein, ce n'est que mon point de vue, de jouer la carte de la transparence avec les clients, c'est-à-dire savoir éduquer et savoir sensibiliser le client à sa valeur ajoutée, pourquoi, comment, et toujours être dans un lien continu d'expliquer qui fait quoi, à quel moment, d'être vraiment proactif aussi pour éviter que le client se pose n'importe quelle question à n'importe quel moment finalement du parcours de la mission.
Ouais. Ouais, grave.
Je sais pas si ça répond vraiment à ta question.
Si, si, carrément. Et de toute façon, en conversation, moi, ça me fait penser à des choses que je vais partager aussi parce que du coup, j'ai travaillé en mode collectif pendant quand même finalement assez longtemps quand j'étais encore sur ma mission branding marketing. Mais je te rejoins à fond sur le côté il faut que l'information circule et que le client en face de nous, il sache toujours pour telle problématique à qui je m'adresse. Pour pas qu'il y ait de non-dit ou de blocage au moment de « Ah, il me faut une information, je sais pas à qui la demander ou où aller la chercher ou est-ce que c'est moi qui fais ça ou quoi ?» Donc, ce niveau poussé de partage d'informations, il me semble hyper important. Et ouais, t'allais rebondir sur quelque chose, je crois.
C'est très vrai sur la partie communication. Tu vois, je pense que c'est fondamentaux qu'on vient de citer. Ça peut marcher pour n'importe quel type de communication finalement entre des humains. Donc il y a le côté vraiment lien constant et du coup qui évidemment participe à la confiance et à la bonne tenue et des objectifs et ouais, ou du bon déroulé de tout ça. Mais il y a aussi le côté valeur perçue, et je trouve que c'est important quand on débute aussi en freelance. C'est bah, il y a une stratégie de pricing, et c'est toujours délicat finalement de définir son prix, de l'assumer, de savoir s'il est juste, etc. Et je trouve que justement cette transparence, cette communication permanente, ça permet aussi de retranscrire la valeur réelle de chacun des travaux finalement qui sont proposés aux clients. Parce que si tu livres des choses comme ça telles quelles, tu laisses ton client apprécier lui-même ce qui a été fait. Alors que si tu expliques exactement comment ça a été fait, pourquoi, dans quel but, etc., ça prend une autre dimension, je trouve, en termes de valeur perçue.
Ouais, très, 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 très pertinent ce que tu dis. Et ça rejoint effectivement, je pense, le niveau d'information à donner quand on propose des choses. Tu vois, là, on parlait d'offres et de cadre d'organisation en mission. Mais je pense que ça vaut aussi quand on fait notre proposition, par exemple. Tu vois, quand tu fais ta proposition commerciale, de vraiment appuyer sur pourquoi cette méthode-là, pourquoi telle personne fait telle chose, pourquoi ça prend tant de temps, qu'il y a un niveau d'éducation qui va jusqu'à bien expliquer tout le process. Et effectivement, ça fait gagner en valeur de se dire « Ah ouais, il y a toutes ces choses-là, c'est pas juste genre un article que je reçois, ou c'est pas juste un site ou une landing page que je reçois. Il y a vraiment plein de choses qui se passent derrière, et c'est important d'appuyer dessus. »
C'est exactement ça. Et de faire le parallèle avec les objectifs, la vision et les bénéfices réels finalement et finaux que perçoit le client, c'est là aussi où tu l'aides à appréhender et à apprécier finalement la valeur reçue. Et c'est aussi de notre sort. Je trouve qu'en freelance, c'est de notre sort de transmettre ce message-là.
Ouais. Et je pense surtout quand tu travailles à plusieurs, où justement ça rajoute des couches de complexité. Et c'est important de ramener à chaque fois sur le devant de la scène le rôle de chacun, que non, c'est pas juste quelqu'un qui va faire des petits trucs parce que nous, ça nous permet de facturer plus cher. Enfin voilà, que tout ça a un vrai sens. Et ça me permet de toucher un autre truc aussi, que tu parles des objectifs, bénéfices, valeurs reçues, qui est aussi à quel point c'est important, à mon sens, déjà quand on est tout seul, clairement, mais encore plus quand on est plusieurs, je crois, de vraiment s'intéresser à qu'est-ce qui est important pour nos clients, qu'est-ce qui est important pour les personnes en face de nous. Et ça se joue, par exemple, au niveau de l'organisation, comme on disait. Est-ce que la personne, ce qu'elle veut, c'est avoir en interlocuteur toutes les personnes parce qu'elle a envie d'être en relation avec toutes les personnes avec qui elle travaille? Ou au contraire, est-ce que ce qui est important pour elle, c'est d'être le plus efficace et rapide, auquel cas c'est intéressant d'avoir un rôle chef de projet, que moi j'ai beaucoup eu sur des missions quand je bossais en collectif. Il y avait une personne qui était chef de projet, qui était l'interlocuteur unique et central, qui ensuite faisait en sorte que toutes les autres personnes qui bossaient sur le projet, voilà, c'était un peu la chef d'orchestre. Mais du coup, c'est elle qui était en interaction avec la cliente ou le client. Et ensuite, nous, on était autour de la chef de projet. Et c'est une autre manière de fonctionner que je vois, qui, encore une fois, ça dépend grave de qu'est-ce que le client veut, comment nous, on veut fonctionner aussi en interne, et qu'on trouve une sorte de point de jonction entre ça, quoi.
Exactement, et d'où l'aspect finalement caméléon, enfin en tout cas modularité, flexibilité de nous en tant que freelance, parce que on doit s'adapter finalement à la personnalité, au fonctionnement, à la vision, etc. de nos clients, et qu'on doit être force de proposition aussi pour que ça réponde au mieux à tout ça.
Ouais, et je sais que du coup, c'est dans ta collaboration avec Julia, je sais que vous avez évolué aussi sur ce point-là de l'organisation, parce que plus vous avanciez ensemble et plus vous commenciez à faire des projets communs, notamment sur la partie formation, pédagogie, pour laquelle on vous connaît principalement JNG aujourd'hui, vous avez commencé à déléguer de plus en plus de choses sur vos anciens. D'ailleurs, je sais même pas si vous faites encore des missions comme ça, je crois que c'est très restreint, mais sur vos rôles de social media et de rédaction.
Ouais, c'est restreint.
Du coup, je sais que vous avez commencé à déléguer de plus en plus. Ça a évolué comment, du coup, votre organisation autour de ça, au début, c'est nous qui produisons et c'est nous qui sommes en direct avec le client, à on a de plus en plus de personnes qui produisent à notre place et à qui on délègue.
Ouais, alors il y a quelque chose, il y a une constante qui n'a pas évolué, c'est qu'on est toujours chef de projet. C'est toujours nous, les interlocutrices auprès des clients, puisque c'est auprès de nous qu'ils ont fait appel et c'est à nous qu'ils font confiance. Donc finalement, le rendu et le déroulé de A à Z finalement, de la commande jusqu'à la livraison, c'est nous qui le pilotons et qui validons absolument tout ce qui est transmis aux clients. Ça, c'est une constante qui n'a pas évolué. Par contre, effectivement, en termes de tâches opérationnelles, on a commencé à déléguer de plus en plus pour plusieurs raisons. La première, c'était de toute façon d'un point de vue planning, parce que à un moment donné, les journées ne sont pas extensibles. C'est le temps est une ressource, une denrée suffisamment rare pour que ce soit très évident tout de suite quand tu te retrouves très rare. Tu te retrouves submergé, tu n'as pas que d'autre choix que soit de laisser tomber certaines choses, soit de les confier à quelqu'un d'autre. Donc, on a fait les deux, hein. Il y a des choses qu'on a laissé tomber parce que plus forcément en accord avec nos valeurs, ou plus forcément stimulant, ou on se sentait plus non plus aligné. Enfin, il peut y avoir plein de raisons pour un abandon de client, enfin un abandon, on se comprend, hein. un arrêt de collaboration. Et la partie la partie délégation, qui est du coup, il a fallu trouver des partenaires de confiance, qui a été une mission quasi impossible au départ. Moi, j'ai même failli baisser les bras à ce niveau parce que j'ai eu tellement de désillusions, j'ai eu tellement de galères sur mon sourcing de prestataires que j'ai failli me dire le problème vient de moi, je vais arrêter, c'est pas possible, je trouverai jamais. Soit je suis trop exigeante, soit je suis une vraie un vrai tyran, quoi, tu vois, je peux pas transformer les gens, donc bref, j'ai beaucoup beaucoup galéré et finalement j'ai réussi à trouver des personnes à la fois qui répondaient à mes exigences de qualité, qui à la fois étaient fiables, c'est-à-dire qu'ils respectaient leurs engagements, ils respectaient les deadlines, ils étaient à l'écoute, et puis le côté humain qui pour moi est incontournable, faut que ça matche, sinon c'est très compliqué de travailler, encore moins sur le long terme. Mais voilà, ça s'est défini comme ça, et effectivement c'est forcément la partie qui concernait nos clients qui a été touchée. Et le but, donc il y avait une raison liée au planning, au fait que on est seulement 24 heures dans la journée, et puis aussi qu'un seul cerveau, deux avec Julia, mais tu vois, c'est au bout d'un moment c'est limité. Et aussi c'est ça, et aussi le côté où nous, ce qui nous tenait à cœur pour les années à venir, à partir du moment où on s'est associés, c'était de développer tous nos projets liés aux formations, aux accompagnements qu'on propose, etc. Donc, il fallait forcément faire des choix après entre ce qu'on gardait et ça s'impose un peu de soi. Après, tu sais, t'as une zone de kiff, une zone de génie. Forcément, le reste essaye de trouver des moyens qui ne passent plus uniquement par toi.
Ouais. Et du coup, je suis super curieux de ce moment où vous dites « Ok, on va arrêter de tout produire et on va commencer à déléguer. » Et tu as parlé un peu de la complexité de trouver les bons profils sur différents critères. Mais je suis curieux de ce que c'était votre process. C'était quoi le déclencheur ? J'entends que le déclencheur, c'était « On n'a plus d'espace cerveau disponible / on n'a plus assez de temps pour faire ce qu'on aimerait faire. » Et du coup, on va commencer à déléguer les choses qui sont pas dans zone de génie, zone de kiff, comme tu as dit. C'était quoi le processus à ce moment-là de décision de cette personne, on va la tester, cette personne, on va la garder, là, ça se passe pas bien, là, ça se passe pas bien. Tu vois, pour des gens qui n'ont peut-être jamais fait ça, trouver des prestataires, chercher des prestataires, sélectionner des prestataires, comment vous avez fait pour c'était quoi votre process décisionnel là-dessus ? Je suis curieux.
En fait, le déclencheur s'est fait sur une commande qu'on a eue, une nouvelle commande qui a débarqué. Donc, c'était de la production d'articles de blog où on s'est dit, il y avait déjà eu des prémices un peu cérébraux où on se disait, oh là là, il va falloir qu'on trouve des gens, Et puis, il a fallu une commande un peu particulière où on s'est dit, il faut sourcer maintenant. Donc là, on a lancé une campagne, un appel, on a acheté une bouteille à la mer même dans la commune de Julia, où on a dit, voilà ce qu'on cherche, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui seraient intéressés, qui seraient motivés, etc., à participer à ce genre de projet avec nous et qui seraient prêts à travailler avec nous. On a reçu beaucoup de demandes, on a fait un gros filtre en entonnoir par rapport à... Après, c'est très subjectif, c'est aussi des critères de feeling, de manière de se présenter, de portfolio, tu vois, c'était un match de quand même plein de critères, à la fois humains, à la fois techniques. Et sur cette short sélection, on a fait des tests grandeur nature, c'est-à-dire que on a fait un brief fictif à ces filles-là, parce que du coup, il y avait que des femmes à ce moment-là. On leur a fait un brief fictif et on les a testées sur un tout petit travail finalement à faire pour nous. Et à partir de ce rendu concret, on a pu justement pouvoir apprécier, comparer, etc. Et on a fait notre choix comme ça. Il y a eu des gros fails, hein, c'est-à-dire que par exemple, les premières sessions de sourcing, je te dis une bêtise parce que je n'ai pas les chiffres en tête, mais par exemple, on a short sélectionné 10 personnes, on a testé ces 10 personnes et au final, on n'a pris personne. On a relancé une campagne de recrutement en mode « Allô, voilà ce qu'on a été un peu plus précis sur nos exigences, sur justement pointer du doigt ce qu'on ne voulait pas et ce qu'on a vu et qu'on ne voulait pas. » Donc ça a permis peut-être à des gens de mieux se reconnaître et de mieux comprendre finalement ce qu'on attendait concrètement. Et là, ça a mieux fonctionné et c'est comme ça qu'on a trouvé notre principale rédactrice aujourd'hui. Voilà, moi j'ai toujours aussi ma rédactrice ancestrale qui bosse avec moi depuis toujours. Et puis au fur et à mesure, la communauté s'est agrandie, donc forcément après, on a commencé à déléguer pour nous-mêmes, tu vois, sur la partie graphisme, partie dev de notre site, partie office manager. On a commencé à trouver après les bonnes personnes pour les bonnes missions. Mais ça prend énormément de temps. Hein. Je vais pas mentir en disant que déléguer c'est facile, déléguer ça se fait rapidement, c'est faux. Pour plein de raisons, c'est un processus complexe et que je pense dépend aussi de chaque individu. On n'a pas tous les mêmes manières de faire, les mêmes curseurs, on les place pas au même endroit. Donc c'est un vrai chantier et qui finalement ne se termine jamais vraiment.
Ouais, c'est hyper itératif. Je m'en rends compte aussi avec. t'en fais pas. Je le vois avec ma manière de bosser avec Diane aussi. Ça évolue tout le temps. Son rôle évolue tout le temps. C'est grave itératif, mais je te rejoins à fond aussi sur le côté c'est très subjectif en fait, parce que quand tu passes de ce stade je fais tout seul à ok, il y a des choses que je vais commencer à sortir et à donner à d'autres personnes, de toute façon en fonction des personnes ça va déjà pas être les mêmes choses qu'on va sortir, parce que il y a pas les mêmes choses qui nous plaisent, il y a pas la même partie de notre activité où on s'épanouit le plus et où on apporte le plus de valeur. Donc déjà à partir de là c'est complètement subjectif, mais aussi dans ce qui est important pour nous, nos valeurs, nos relations. Enfin voilà, il y a tout ça qui joue. Mais je suis curieux, et on peut faire l'exercice ensemble si tu veux.
Exactement.
Si on essaie de revenir à la fondation de qu'est-ce qui fait la réussite d'une collaboration quand on sort de « je produis tout seul » à « soit je délègue une partie de ma mission quand je suis en free, soit je prends quelqu'un pour, je sais pas, gérer mon administratif et ma facturation ». À ton sens, c'est quoi, genre, s'il y avait trois fondamentaux, si on fait ce jeu de dire les trois choses qui, même si ça me plaît pas toujours de faire des choses comme ça, mais jouons ce jeu-là, ce serait quoi pour toi?
La première, pour moi, qui est assez évidente, c'est quand même de vérifier les compétences pour lesquelles on fait appel à cette personne. Et là encore, il y a une partie très objective, c'est-à-dire que tu sais qu'il y a des prérequis pour valider un peu un profil métier. Ouais. Mais il y a aussi une part subjective de dire que, surtout par exemple, je pense à mon métier à moi qui est la rédaction web, il y a une part quand même, tu sais, cette plume, cette fameuse plume, elle peut plaire ou ne pas plaire. Donc il y a quand même un côté subjectif dans ce choix-là. Mais on va dire que le premier de ce socle, c'est la partie compétence pure, expertise, domaine de connaissances. Après, en deux, je dirais, pour moi, la fiabilité. C'est-à-dire que je ne peux, peu importe la mission que je vais déléguer, si je sais que je suis pas en sécurité sur la manière dont je vais pouvoir compter sur cette personne, que ce soit d'un point de vue calendrier, d'un point de vue... tu sais, il y a plein de gens qui sont capables, sur un instant T, de te dire « Ah bah oui, je vais faire ça, 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 j'ai pensé à ça », et qui finalement font les morts après derrière, ou qui organisent tout plein de choses, mais finalement ils annulent à la dernière minute. Toutes ces petites choses qui rendent les gens non professionnels, selon moi, ça fait partie d'un de mes piliers, en tout cas à moi. Si je sens que je suis pas en confiance et que la personne en face de moi ne m'inspire pas fiabilité, sécurité, j'y vais pas, c'est clair et net. Et puis ça vient aussi de déceptions que j'ai peut-être eues avant avec des personnes à qui j'ai fait confiance à tort ou quoi, tu vois, mais me retrouver déçue parce qu'on n'a pas tenu ses engagements, pour moi ce serait pour moi une erreur de casting si je me retrouvais dans ce schéma là, tu vois.
Je vois carrément. Du coup ce que j'entends c'est
donc moins... ça fait deux.
C'est moins le génie de la personne, mais t'inquiète, je voulais juste préciser pour voir si j'entendais bien, c'est une personne incroyable, tellement forte à son truc, mais c'est plus ce qu'elle dit, elle s'engage et elle le fait. Et peut-être c'est moins que le côté « ouais, on va faire ça, plein d'idées », mais vraiment juste je dis que je vais faire ça, je le fais à telle date comme je me suis engagé et je tiens les wagons.
Exactement. Il y a un côté aussi où... tu sais, t'assumes ce que tu fais. Si tu fais une connerie, tu l'assumes. Si tu as une proposition, une idée à proposer, tu l'assumes. C'est exactement, responsabilité. Et du coup, ne pas se chercher de fausses excuses. Tu vois, ça rentre tout ça rentre là-dedans. Où, pour moi, c'est le principe finalement de la fiabilité et du professionnalisme.
Mmh, Ok. Et la troisième, du coup ?
Et la troisième, bah après, moi, je pense que c'est un match humain. Donc, il faut qu'il y ait un feeling qui soit là. Faut que tu te sentes à l'aise avec la personne, que tu aies envie de discuter avec elle, que tu aies envie de rigoler avec elle. Après, bon, tu sais, ça, c'est très subjectif aussi, parce que moi, le rire occupe une place très, très importante dans mon quotidien.
Ça, je sais.
Et j'ai besoin... J'ai besoin de rire avec n'importe lequel de mon interlocuteur. Alors oui, si demain je rencontrais Macron, je sais pas si j'arriverais à me taper une barre de rire avec lui, mais en tout cas, peu importe finalement qui est cette personne, il faut qu'il y ait cette dose d'humour. Alors pour moi, c'est l'humour. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, ce serait, je sais pas moi, je sais pas, t'as un exemple, c'est quoi pour toi ?
Moi, c'est la profondeur des discussions, qu'on puisse discuter de tout. Et avec Diane, on parle de tellement de trucs et tu vois, c'est ne pas cacher des choses, ne pas essayer d'être, de vivre dans un carcan de non, ça c'est Thomas le professionnel, ça c'est Thomas dans sa vie avec ses potes. Moi, tu vois, c'est cette ouverture là qui me plaît de dingue dans mes relations pro.
Ouais, hyper intéressant aussi.
Et pour aller un cran plus loin, du coup, je suis curieux de aujourd'hui. Déjà, combien de personnes travaillent avec et pour vous sur GNG ? Parce que je sais qu'il y a un écosystème de personnes avec qui vous bossez qui s'élargit de plus en plus. Et surtout, comment vous faites pour gérer tout ça, du coup, entre les gens qui produisent pour les clients que vous gardez, les gens qui bossent pour vous ponctuellement, les gens qui bossent pour vous régulièrement, et je pense à Caroline, votre office manager. Comment vous faites pour commencer à gérer cet ensemble-là ? Parce que je pense que c'est des compétences que tu développes avec le temps. Et je me mets à la place de, par exemple, quelqu'un qui est en freelance, qui se dit, j'ai envie de graviter vers un modèle agence ou graviter vers un modèle collectif. C'est hyper important d'avoir, de développer ces compétences-là. Donc, je suis curieux de comment ça se passe pour vous.
Ok. Alors, pour répondre à la première question, je saurais même pas dire le chiffre exact de personnes qui travaillent au service de GNG, tu vois, parce que ça peut être de manière très éloignée ou de manière très, très proche, comme c'est le cas de Caroline, par exemple. Mais on va dire une grosse dizaine, avec un socle de 4-5 personnes avec qui on bosse au quotidien. Vraiment, il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'il n'y ait pas un échange entre nous, que ce soit par mail, par téléphone ou par des missions qui sont traitées chaque jour. Donc, ça fait quand même du monde, effectivement. Pour nous, ça n'a pas été très facile d'accorder notre confiance. Donc, au début, on était très présentes, forcément, comme tout. Une fois que tu as des validations, nous, on fonctionne très comme ça avec Julia, c'est-à-dire que au début, on est un peu frileuse et après, il suffit de petits ingrédients qui vont venir s'accumuler et qui vont former finalement la confiance et le lâcher prise par rapport à justement notre exigence, notre méfiance, si on peut dire ça comme ça. Et ça se construit avec le temps, c'est clair. Après, le socle pour n'importe lesquelles des missions qu'on peut déléguer ou n'importe lesquelles des missions qu'on délègue, le socle, c'est les process. C'est-à-dire que, en tant que commanditaire, finalement, de ces missions, on doit être capable de formuler des briefs et des process clairs. Donc, ça implique à la fois la partie purement technique de comment on fait les choses, où, sur quel outil, à quel moment, les calendriers, etc. Ça fait partie vraiment de la partie purement organisationnelle. Mais il y a une partie aussi de communication, forcément, qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire savoir expliquer pourquoi tu demandes ça. Quel va être l'objectif final, ce que tu vises avec ça, pourquoi tu le demandes de telle manière et pourquoi ça c'est important, etc. Il y a vraiment pour moi c'est une des clés pour justement qu'il n'y ait pas de raté ou que le résultat ne corresponde pas à l'idée que tu en avais, c'est d'être le plus précis possible et d'inclure autant que possible ton prestataire ou ton partenaire dans ce projet-là, dans la mission que tu délègues, peu importe ce qu'est cette mission.
Très intéressant. Et en plus, ce qui fait que du coup, avec le temps, t'optimises et tu vas de plus en plus vite et de plus en plus efficace parce que le système derrière est tellement huilé qu'en fait, il est au service de la prestation aussi. Et je pense que c'est un axe super important qu'on doit tous creuser, même quand on est seul d'ailleurs, se créer des process, des systèmes, des méthodes et les poser, pas les avoir juste dans sa tête, mais vraiment les poser quelque part. Je sais que vous plancheriez pour Notion, pour aller le faire là-dedans, mais les sortir de sa tête pour ensuite les voir de l'extérieur et se dire, ok, qu'est-ce que j'améliore, comment je fais pour optimiser le système de plus en plus, parce que c'est ça qui assure les résultats sur le long terme.
C'est exactement ça.
Trop bien, merci pour ta réponse, elle est top. Et je suis curieux du coup maintenant, si on zoome un peu plus sur votre relation entre toi et Julia, parce que du coup, vous êtes associé depuis, je crois, décembre 2019, il me semble, c'est le début de la
c'est
SAS,
ça.
C'est ça? Et je serais curieux déjà, pour toi, comment c'était de te dire « je vais rejoindre ce que Julie a construit depuis 2014-2015, où elle a créé énormément de contenu, les gens la connaissaient pour son contenu pour les freelances, et que toi, tu as un peu rejoint ça ?» En te disant, je vais commencer presque rejoindre un nouveau business parce que tu faisais pas la partie formation, pédagogie et tout avant. Donc, je suis curieux de comment c'était pour toi de presque lâcher un business qui était le tien et rejoindre ça et comment ça. Enfin, voilà, j'imagine qu'il se passait plein de choses pour toi émotionnellement et dans ta tête aussi.
Et grave, et c'est marrant de pouvoir le verbaliser presque 2 ans plus tard, parce que forcément, ce que je t'aurais répondu à l'instant T, c'est pas forcément ce que je te réponds aujourd'hui, donc c'est intéressant de faire le parallèle. Mais en fait, le point de départ s'est fait sur ce constat que oui, on avait des choses à faire ensemble, que on s'était liés d'amitié au fur et à mesure du temps qu'on bossait dans le même coworking, que donc on avait des valeurs communes, etc. Et puis, par la force des choses, en fait, Julia m'a greffé de manière complètement non conscientisée à son business, parce qu'elle me sollicitait énormément, mais en off, moi j'étais juste là pour être sa pote, en fait, et lui donner un regard, à la fois objectif, parce que j'étais pas dedans, j'avais pas d'intérêt finalement à dire telle ou telle chose, et aussi parce qu'elle avait quand même décelé chez moi cette pertinence, le fait que je percute quand elle me dise quelque chose et que je sois capable de lui dire « ah non, ça c'est de la merde » ou « attends, mais t'as pensé à ça », etc. Donc elle en tirait naturellement des bénéfices de trouver cette oreille attentive chez moi. Et donc, quand elle m'a proposé de finalement tout réunir et pas seulement nos compétences pour nos clients, donc social media et rédaction web, j'y suis allée en mode « bah ouais ». Alors, il y avait un premier truc, c'était de me dire que à cette période-là, c'est arrivé à un moment de ma vie où j'ai un petit peu tout envoyé, valsé dans ma vie perso. Et je commençais clairement à m'ennuyer un petit peu dans ma vie pro, c'est-à-dire vraiment avec cette casquette uniquement de rédaction web. Quand bien même j'avais un espace de coworking qui était hyper dynamique, etc., je commençais un peu à m'endormir. J'avais un peu perdu le sens de pourquoi je le faisais, qu'est-ce qui me faisait kiffer là-dedans, etc. Peut-être un peu trop de monotonie aussi dans mon quotidien. Donc quand elle m'a proposé ça, d'un côté, j'ai senti qu'il y avait, tu vois, dans mon fort intérieur, qu'il fallait y aller, que ça m'attirait, que c'était fait pour moi, que c'était l'opportunité à ne pas laisser passer et pas trop tergiverser. Et d'un autre côté, heureusement que j'ai pas tergiversé, parce que si j'avais essayé de décortiquer ce que ça allait impliquer pour moi, je pense que j'y serais pas allée du tout. Parce que clairement, c'était se jeter dans le vide. Donc c'est comme un saut à l'élastique, mais sans élastique, tu vois. Tu sais pas où tu vas atterrir et tu sais pas quel va être le chemin. Et l'image que t'as prise sur intégrer son business, tu vois, elle est très bonne, parce qu'en fait j'ai toujours utilisé cette image de intégrer un wagon dans un train qui roule déjà. Et cette image, elle est forte, parce que du coup c'est exactement ça, en fait. J'avais la structure qui était déjà là, il fallait juste que je grimpe dans le train. Mais forcément, le train, il était déjà parti de, on va dire, il faisait Paris-Clermont, il était parti de Paris, et moi je l'ai pris à mi-chemin. Et que donc, j'ai eu une dose de choses à assimiler, à apprendre, à découvrir, à comprendre. J'ai l'impression d'avoir vécu ces 2 dernières années une durée de vie de 10 ans, si tu veux. Je pense que j'ai assimilé dans mon cerveau et intégré des choses que peut-être j'aurais mis 10 ans à apprendre dans un autre contexte.
Waouh, fascinant. C'était intense, j'imagine, du coup. Enfin, j'imagine que c'est là encore, d'ailleurs.
Oui.
Et du coup, je suis curieux aussi de... Donc toi, tu es dans ces trucs-là, tu rejoins un business qui tourne déjà, tu es en mode l'intensité de tout rejoindre, de machin et tout ça, et il y a en plus de ça, toute la facette de « ok, maintenant on s'associe, donc ce business, ça devient notre business, c'est pas que celui de Julia, ça devient le vôtre, et tout ce que ça prend en compte de s'associer juridiquement, entre guillemets, au-delà de humainement ». C'était comment, du coup, d'avoir ce poids en plus là, de plein de décisions à prendre à deux que vous aviez jamais prises? On en avait parlé un peu avec Julia et toi à un moment donné récemment, mais je suis curieux de ça ressemblait à quoi d'avoir tout ça en plus, genre qu'est-ce qui se passait entre vous deux, C'est quoi les conversations que vous avez eues? Enfin, j'imagine qu'il y a eu plein de choses intéressantes qu'on ne mesure pas tant avant d'arriver à ce stade de se dire on s'associe pour faire une vraie boîte.
Ouais, complètement.
Une boîte, statut juridique au-delà de auto-entrepreneur.
Alors, heureusement pour nous, on a trouvé les bons interlocuteurs à la fois sur la partie juridique et à la fois sur la partie comptable. Donc, on a fait des choix de structure sur les conseils de ces personnes-là et pas par nous-mêmes, parce qu'on partait l'une et l'autre à zéro de niveau de connaissance sur les statuts juridiques, sur ce qu'impliquait finalement une année fiscale d'un point de vue de la société, les transferts financiers, tout ça, tous des rouages qu'on découvrait l'une et l'autre. Donc au moins, on partait du même niveau sur ça, ce qui n'était pas le cas d'autres choses. Et heureusement qu'on a été accompagnés, parce que nous, du coup, on a suivi les conseils qui nous paraissaient pertinents. On a fait des conneries, on a fait des mauvais choix, on a pas écouté des conseils aussi pour appliquer ce qu'on ressentait, finalement c'était pas les bons. Donc pour le coup, le mot qui peut résumer tout ça, c'est freestyle. C'est-à-dire que à la fois on était bien entouré, mais à la fois on devait prendre des décisions à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on savait pas ce que ça allait donner, on savait pas si c'était les bons choix, la bonne trajectoire, mais qu'il fallait le tester pour le savoir. Finalement, on est très adepte du test and learn, donc ça s'appliquait aussi à notre structure, à notre vraiment la partie cadre et périmètre du business. Et donc voilà, finalement, ça a été des choix qui se sont imposés à nous. À un moment donné, tu dois faire un choix sur, je sais pas, bon, le statut juridique, c'est le point de départ, mais comment tu utilises ta trésorerie, comment t'anticipes des créances clients, enfin bref, toutes des choses qu'on n'avait jamais eu l'occasion de découvrir. Et finalement, c'est comme tout, tu découvres, tu fais des choix, parfois ils sont bons, parfois ils sont mauvais. Du coup, s'ils sont mauvais, ben ça t'a mis un peu dans la merde à l'instant T. Donc, tu vas trouver des solutions pour pas reproduire ça et faire mieux la prochaine fois. Mais là, pour le coup, nous, on n'est pas des modèles de « Ah ouais, les guerrières du statut passé de freelance, enfin en tout cas micro-entrepreneur à une vraie société ». On n'est pas du tout des modèles. Nous, on a vraiment suivi et les bons conseils et notre instinct. Et en ajustement permanent, tu vois, on n'est pas encore du tout au clair avec finalement les choix qu'on a fait jusque-là.
Ouais. Qu'est-ce que tu dirais du coup, tu vois, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont au stade de « on va peut-être s'associer, on va peut-être créer un truc ensemble », qu'est-ce que toi, tu ferais différemment a posteriori, si tu devais recommencer ce chemin-là ?
Alors, c'est deux questions différentes, parce que si je devais simplement donner mes conseils sur les premières choses à valider finalement avant de s'associer avec quelqu'un, il y a la partie humaine. D'ailleurs, j'ai rédigé un article là-dessus parce que ça me tenait à cœur justement, parce qu'on nous pose très souvent la question comment savoir si cette personne est la bonne personne pour s'associer, etc. Nous, on a cette chance de s'être connus d'un point de vue perso avant de switcher sur la partie pro. Donc, il y a énormément de validations qu'on n'a pas eu à faire après sur la partie pro parce qu'elles étaient déjà validées avant. Mais dans cet article, il y a une grosse partie mindset, c'est-à-dire il faut un alignement finalement avec ton associé. Ça veut pas dire qu'il faut deux personnes identiques. Julia et moi, on est la preuve vivante que tu peux être totalement différente et pourtant que le binôme fonctionne très bien. Ouais. Mais il faut un alignement des valeurs, des aspirations et de la vision des choses. Tu vois, si Julia, son but, c'était juste de faire toujours plus d'argent sur Internet et que moi, c'était juste de kiffer mon quotidien, ça, déjà, ça matche pas. Tu vois, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes aspirations. Donc forcément, les moyens de mettre en œuvre tout ça, ça va pas marcher. Donc, il faut arriver, avant même de prendre la décision de potentiellement s'associer, d'arriver à trouver un équilibre. Et moi, je conseille de tester ce genre d'association d'abord avec deux entités séparées. Je trouve ça très, très risqué de se jeter tout de suite dans une entreprise commune et un statut commun avant d'avoir vérifié un travail collectif, pas forcément pour des clients, mais au moins d'avoir pu s'immerger et se projeter dans cette vie professionnelle à deux. C'est hyper important, à la fois d'un point de vue humain et à la fois d'un point de vue organisation. Voilà, qui fait quoi et comment. Tu vois, c'est plein de questions qu'il faut poser en amont. Et si tu sens d'ores et déjà qu'il y a des points de friction et que ça va pas coller, c'est soit t'y crois quand même et donc tu vas essayer de décortiquer tout ça pour trouver les meilleures solutions. Rien n'est jamais bloqué finalement. On peut toujours essayer de s'entendre, de discuter, etc. Là encore, la communication a une grosse part à jouer. Soit tu prends ces signes comme des vrais signes de donte et tu n'y vas pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment de la validation en amont à avoir et un alignement. C'est hyper important.
Ouais, je te rejoins à fond. Je pense que c'est hyper important de... Parce que finalement, toutes les problématiques, entre guillemets, fonctionnelles, tous les challenges et les défis et les problèmes qu'on va rencontrer, si déjà de base c'est dur de communiquer l'un avec l'autre, c'est très très mal parti, quoi. Alors qu'effectivement, si tu as déjà un lien fort, finalement, peu importe ce qui se passe, même si ça veut dire faut fermer la boîte ou une faillite, j'en sais rien, il peut se passer tellement de choses dans une aventure entrepreneuriale. Mais si tu t'entends bien et que tu as un lien humain, bah finalement, tu sais faire face à ça, quoi. Du coup, ça, c'est les conseils de base. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez fait,
Exactement.
des décisions prises ou des trucs comme ça, qu'a posteriori, tu ferais différemment? Parce que je pense que c'est une question intéressante aussi pour que les gens puissent identifier, ah tiens, ça, on a l'intuition d'eux. Tu parlais de, vous avez fait des trucs complètement intuitivement. Est-ce qu'il y a des trucs qu'aujourd'hui, si tu devais recommencer, tu ferais différemment?
Le plus gros truc et celui qui me vient à l'esprit en premier, c'est la gestion de la trésorerie qui fonctionne de manière tellement différente. De toute façon, les rentrées et les sorties d'argent en entreprise sont totalement différentes du simple facturation-encaissement en micro. La gestion de cette trésorerie, finalement, nous, on a appris là dans ces derniers mois. Et quand bien même, en fait, notre comptable nous l'avait conseillé, c'était pas concret pour nous, on n'arrivait pas à se projeter. On se disait, finalement, on fait du chiffre d'affaires, nous, on n'augmente pas nos salaires, donc qu'est-ce qu'on fait de ce qui reste? Nous, on se servait toujours, on le dit souvent, l'argent pour nous est le moyen d'eux. Et c'est vrai que nous, on s'autofinançait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait de l'argent sur notre compte, qu'on s'était payé nous et qu'on avait payé tout le monde, et ben, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Ben, nous, c'était au service de nos projets. Donc, on a autofinancé tous nos projets depuis le départ. Et c'est une erreur grossière. Vraiment, j'ai pas peur de le dire aujourd'hui, c'est une erreur grossière. N'importe quel comptable ou avocat, fiscaliste, etc., nous dirait, on n'autofinance pas ces projets. On fait une demande de prêt à la banque parce que justement, cette trésorerie, elle est là pour te rendre légitime auprès des banques, montre que tu es solvable, etc., peut permettre de pallier à n'importe quelle grosse galère ou truc qui te tombe sur le coin du nez et qui n'était pas prévu. Alors que les banques qui croient et qui sont là pour supporter et accompagner les entrepreneurs sont là pour financer les projets qui voient le jour. Et c'est une nuance qui, dit comme ça paraît pas, mais en vérité, ça fait toute la différence. Tu peux te retrouver du jour au lendemain avec plus rien dans ta trésor parce que tu as mal géré justement tes investissements. Alors que si tu gères ça avec un prêt bancaire, tu sais que ton montant à rembourser, il est de tant, mais qu'en amont, tu as une enveloppe. Après, évidemment, tout ça doit être chiffré intelligemment pour savoir qu'est-ce que tu injectes dans quoi, etc. Dans quoi tu mets, enfin, comment tu rends ça à ton service. C'était pas très français ma phrase, mais au-delà de ça, c'est vraiment cette enveloppe que tu dois avoir comme finalement la comment dire. Ouais, si la boîte, la boîte à projet, elle est dans une enveloppe bancaire et non dans une enveloppe, enfin issue de la banque et non dans une enveloppe de ton chiffre d'affaires et de ton bénéfice.
Trop intéressant, parce que j'imagine que ça vient bousculer tellement de sujets sur le rapport à l'argent et tout. Et que ça vient challenger tellement de choses comme ça, parce qu'effectivement, comme vous le soulignez super bien dans vos rapports de revenus mensuels, qui je pense sont une ressource géniale pour l'éducation sur ces sujets-là, pour les gens qui suivent votre travail, les flux financiers, ils sont tellement différents, pharaoniques presque par rapport à ce qui peut se passer quand tu es freelance et quand tu commences à rentrer ton chiffre d'affaires et à encaisser et tout, que ça change tellement de choses. Et effectivement, ça rejoint, tu vois, ce que tu racontes là. Ça rejoint les notions d'effet de levier qui sont beaucoup mises en avant dans le monde de l'investissement immobilier, où en gros on te dit, bah, tu vas chercher l'argent à la banque, et c'est la banque qui achète ta maison, et les loyers remboursent le prêt de la banque, et du coup toi tu bénéficies juste de l'effet de levier d'avoir fait le rapprochement. Et je pense qu'on peut utiliser cette même logique dans le business, tu
Exactement.
vois. Tu te fais financer tes projets, l'objectif de ton projet c'est de générer un chiffre d'affaires entrant qui rembourse le prêt, ce qui fait que du coup tu as financé ton projet avec, entre guillemets, l'argent de la banque slash de tes clients, et du coup tu gardes ta trésor pour
Exactement.
accueillir les évolutions de la vie, accueillir les problématiques, accueillir le fait qu'il se passe des choses. Et je pense qu'effectivement c'est une notion bah, pas évidente à intégrer quand c'est nouveau et quand tu as passé comme toi 10 ans en freelance avant, où le fonctionnement il est différent, quoi.
C'est tellement ça.
Trop intéressant. Je te propose du coup qu'on arrive sur les questions rituelles de fin d'épisode, mais je trouve ça déjà trop cool
Yes.
tout le cheminement qu'on a fait, genre en partant de toi, ton activité à toute seule, puis commencer à travailler ensemble, puis travailler en plus gros groupe et parler de l'association à la fin. Donc je trouve que c'est un super une projection d'évolution pour n'importe quel indépendant, ça se trouve, parce que ben voilà, il y en a beaucoup qui vont suivre ce fil-là aussi. Du coup, merci d'avoir partagé tout ça.
Avec plaisir.
Et la prochaine question, du coup, elle nous fait boucler et revenir tout au début. La prochaine question, c'est si tu étais face à Julie, c'est son tout premier jour d'indépendance, on revient en 2010, c'est quoi le conseil principal que tu lui donnerais après tout ce que tu as vécu?
Un seul, c'est chaud. J'ai le droit à un joker, j'ai le droit d'en donner deux.
Ok, si tu hiérarchises alors.
Ok. Alors le premier, ce serait pour moi, parce que ce sera pas valable pour tout le monde, mais moi, je me suis retrouvée, tu vois, je te parlais tout à l'heure d'une phase d'endormissement, comme si j'avais atteint un peu un plafond et que du coup j'avais perdu le sens de pourquoi j'étais là et finalement qu'est-ce qui me fait kiffer, où je prends mon plaisir. Je me suis laissée endormir, parce que la vérité, c'est que si je m'étais plus écoutée et que j'avais vu plus loin, j'avais ouvert un peu mon esprit, etc., je me serais rendu compte bien plus tôt que finalement je pourrais avoir d'autres aspirations. Ça va rejoindre une double notion, c'est que d'un côté, pour moi, ce que je me conseillerais dès mon premier jour, c'est bouge-toi le cul tous les jours. C'est-à-dire ne te laisse pas endormir par un truc facile, par un truc, une monotonie, etc. Tu vas le regretter plus tard. L'apprentissage constant, la nutrition constante, etc., c'est quelque chose d'hyper important, parce que quand on aura besoin, tu auras les ressources pour aller vers tel ou tel projet, etc. Alors que si tu te laisses endormir, après, tu vas devoir rattraper tout ce que tu as manqué et tout ce qui te fait défaut aujourd'hui et qui, du coup, peut-être peut te faire passer à côté de choses. Et mon deuxième, et ça va avec ça finalement, c'est prête attention à n'importe laquelle des rencontres que tu fais dans ton chemin, parce que une opportunité se cache derrière n'importe quelle rencontre, et que ça peut te paraître anodin ou ça peut te paraître ne pas te correspondre, peu importe finalement quelle sera la finalité de cette rencontre, elle va forcément t'enseigner quelque chose, elle va forcément être bénéfique, source de quelque chose, que ce soit une réaction de rejet, c'est-à-dire non, c'est pas là où je veux aller, ou ce genre de personne, j'en veux pas dans mon entourage, etc. Ou alors, ah putain, je découvre un monde que je connaissais pas et j'adore. Ou alors, oh là là, j'ai trouvé un autre humain avec lequel je pourrais faire des milliards de choses, etc. Mais juste, ne pas considérer que les rencontres sont inutiles ou anodines dans la vie, il y en a jamais, je trouve.
Trop intéressant. T'as lu La prophétie des Andes ou pas?
Non, mais je me demande si c'est pas toi qui m'en as déjà parlé, ou j'en ai parlé récemment avec quelqu'un.
Potentiellement, je t'en ai potentiellement parlé, parce que j'adore ce livre, et justement, un des éléments dedans dit que, après c'est voilà un livre un peu romancé, avec des enseignements un peu spirituels à l'intérieur, mais dit quelque chose un peu de l'ordre de ce que tu dis là, c'est, en fait, il n'y a jamais vraiment de rencontre sans sens, et que si on le souhaite, et si on va creuser, on peut toujours trouver ou donner un sens à n'importe quelle discussion, et, ah tiens, quelqu'un que j'ai pas vu depuis 10 ans, que je croise, je sais pas, dans le métro, ou à un événement, ben en fait, tu peux complètement découvrir ou donner un sens au fait que cette personne réapparaît dans ta vie. Et je trouve ça fascinant de se dire qu'effectivement, il y a ce potentiel, tu vois. Il y a toujours ce potentiel caché dans chaque être humain qui nous entoure. Et j'adore cette pensée parce que, en fait, ça te met en phase exploratoire de dire, waouh, il y a des choses que je peux découvrir sur ma vie dans des interactions avec toutes ces personnes. Du coup, ça me parle de ouf ce que tu dis.
C'est exactement ça. Tes mots là, justement, tes mots résonnent autrement parce qu'on n'a pas la même manière de l'exprimer. C'est toujours hyper intéressant.
Ouais, j'adore. Même si j'ai l'impression qu'on se retrouve sur plein de choses. Du coup, la question suivante, c'est dans ces 10 plus années de ton aventure entrepreneuriale, ça a été quoi la plus grosse difficulté et comment t'as fait pour la dépasser?
Il y en a eu quand même pas mal, hein, donc si je me base sur le récent, parce qu'effectivement 10 ans c'est long pour piocher tout à l'intérieur, j'ai eu plein de challenges perso. Pour ceux du coup qui ne me connaissent pas, je suis maman solo, donc j'ai ma fille une semaine sur deux, ce qui fait que ça n'a pas toujours été comme ça. Avant on était trois, donc du coup bah, ça a été le plus gros challenge de ma vie quand même, hein, me retrouver à la fois sans filet dans ma vie professionnelle et à la fois sans filet dans ma vie perso. Ça a été un double challenge qui, à un moment donné, j'ai pris du recul là-dessus et je me suis dit, est-ce que t'es capable, tu vois, comment tu vas assumer tout ça et pour qu'en tout cas rien n'en pâtisse, ni ta vie professionnelle, ni du coup ben, ta relation avec ta fille, ce que tu vas faire avec elle, son éducation, etc. Ça a été un de mes plus gros challenges, mais c'est tellement spécifique que ça parlera pas forcément à tout le monde. Moi, le plus gros challenge quand même de ces deux dernières années pour moi, ça a été justement du fait d'intégrer ce business déjà construit par Julia. J'étais toujours tiraillée entre tout ce que je devais rattraper, comprendre, assimiler, m'approprier et être capable de faire moi-même, et à la fois dans « je ne veux pas décevoir Julia ». Si aujourd'hui tu me disais qu'est-ce qui t'anime tous les jours, c'est que je ne veux pas décevoir Julia, je veux être encore moins un boulet pour elle, mais on n'en est clairement pas là, mais ne pas la décevoir et qu'elle soit fière de moi et de nous, c'est mon goal, tu sais, goal business ultime, enfin vraiment, ça m'anime tous les jours. Et du coup, ça a été quand même un vrai challenge, même si c'est beau dit comme ça aujourd'hui. Ça a été pour moi assez dur à assumer et à vivre. J'ai vécu, ce que je te disais, 2 années, un peu, enfin 10 années en deux, et que bah d'un point de vue moral, mental et physique, ça a été un peu difficile quand même. Donc là, on est en train de s'armer au mieux pour lever un peu le pied, éviter de s'approcher toujours de cette limite d'épuisement, de dégoût pour les choses, etc. Parce que quand tu donnes énormément, il est toujours là le danger.
Du coup, tu t'armes comment ?
Du coup, ne rien laisser sous le tapis. C'est vraiment, pour moi, c'est la clé. Et j'ai fait beaucoup cette erreur pendant 2 ans, là, d'enfouir des trucs sous le tapis en disant, bah non, ça a pas sa place, tant pis. Or, c'était des signaux qu'il fallait écouter, qu'il fallait, pouvoir interpréter au moment où ils pointaient le bout de leur nez, avant qu'ils prennent une ampleur énorme. Ça a été un peu mon erreur de ces dernières années où j'essayais d'enfouir tout ce qui me plaisait pas et de me dire non, ça n'existe pas, je ne suis pas fatiguée, je ne suis pas à bout de souffle, etc. Et ça c'est parfois ça se répercute un peu de manière violente. Donc l'arme c'est de s'écouter soi et de tirer des enseignements de absolument tout. Et tirer un enseignement, ça veut dire analyser, interpréter ce qui s'est passé et trouver le moyen de faire autrement pour que il y ait pas un pan, que ce soit le côté satisfaction, le côté efficacité, le côté gestion du temps, pour qu'il n'y ait pas un pan qui soit défavorisé finalement.
Ouais, et j'ai eu la grâce de bénéficier justement du fait que tu mettes autant ton attention sur ça récemment, rien que hier. Du coup, on est le 2 juillet 2021 au moment qu'on enregistre ça. L'épisode sort un peu plus tard, au mois d'août. Mais hier, j'ai bénéficié de ça parce que du coup, en ce moment, avec Julia et Julie, on est en train de travailler sur la version 2021 de mon séminaire Excellence Marketing Indépendant qui était prévu là aux dates du 16 et 19 septembre. On allait co-animer et j'étais en train de partir, comme souvent je fais dans les étoiles, à vouloir construire un truc énorme. Et hier, je reçois un petit vocal de Julia suite à une discussion avec Julie sur le fait que tu serais pas en train, Thomas, de vouloir en mettre un peu trop sur ton assiette, sachant que de base, tu avais prévu un mois d'août où tu étais off et tu étais en vacances et tu veux nous pondre un énorme séminaire avec un challenge et tout ce qui va autour pour seulement 2 semaines après ton retour. Et je me suis dit, putain, en fait, ouais. Et je ressens de ouf ce que tu me dis, ce que tu dis là sur ce truc de... En fait, je suis tellement dans mon propre système de... Et moi, tu vois, quand tu dis que t'as pas envie de décevoir Julia, moi, je vois qu'un driver tellement fort pour moi, c'est l'espèce d'amour et de volonté de contribution que j'ai pour... les gens qui me suivent, les gens qui écoutent ce podcast, les gens qui sont dans ma communauté, qui sont dans mes formations, qu'en fait, ça, c'est genre, ça, c'est le moteur de mon train, disons, si on reprend la métaphore du train. Et tant qu'il y en a, et il y en a énormément, ben je vais pas souvent checker mon énergie physique et est-ce qu'elle est capable d'accompagner ça. Et je me rends compte que j'ai des cycles d'à peu près 6 mois. Exactement, cette jauge d'énergie-là. Et j'ai des cycles d'à peu près 6 mois où j'arrive au stade où, niveau contribution, je suis encore à fond, tu vois. Mais niveau énergie physique, je m'en rends pas compte, mais c'est sur le point de lâcher. Et là, le fait d'avoir le dézoom qui vient de toi et qui vient du coup de ta fille aussi dont tu as parlé, parce que cette expérience de vie que tu as apporte aussi cette nuance que moi, j'ai pas parce que je suis seul. Et ça m'a fait prendre conscience que, putain, ouais, en fait... t'es en train de pousser encore, comme il y a 6 mois, ça a été le cas en décembre dernier aussi. Ta contribution dépasse ton niveau d'énergie et il est temps de calmer un peu les choses. Du coup, au moment où ce podcast sortira, j'aurai déjà annoncé publiquement, mais j'ai décidé de repousser le séminaire qui en soi pouvait totalement être repoussé et ça ne tenait qu'à moi parce que j'ai pas encore non plus plein de personnes inscrites qui vont y participer parce qu'elles ont payé le prix d'accès et tout ça. Mais ça se jouait complètement dans ma tête, quoi. Du coup, je voulais aussi te remercier publiquement pour ce moment-là. parce que ça change potentiellement tout mon été et tout le mois de juillet, tout le mois d'août et tout le mois de septembre.
C'est avec plaisir, et c'est ce que je te disais justement, le fait que ta réaction en fait n'a fait que confirmer que effectivement ce qu'on se disait avec Julia n'était pas si déconnant et qu'on avait quand même bien pris. Et à la fois c'est plus facile pour nous puisqu'on a le recul sur ta situation et ton business que tu n'as pas, puisqu'on a la tête dans le guidon. On sait tous très bien qu'on est vraiment capable d'analyse et de pertinence quand on porte un regard extérieur que sur son propre cas, hein. C'est toujours comme ça et ça ne changera pas, je crois. Mais du coup, bah, d'où l'intérêt, encore une fois, de tisser des relations, parce que si on n'avait pas ce genre de relation, peut-être qu'on n'aurait pas été capable de te dire ça comme ça et que toi, tu n'aurais pas été capable de l'entendre comme ça aussi. Donc, tu vois, ça fait la boucle avec comme on a commencé ce podcast sur les relations et les liens.
Complètement, c'est exactement ce que j'allais rajouter et c'est très bien que tu le fasses à ma place. Ça fait écho à tout ce qu'on se disait jusqu'alors, l'importance d'avoir ces gens-là autour de nous. Et j'ai une petite question, j'ai deux nouvelles questions que j'ai rajoutées au rituel de fin pour cette saison. Et ça va changer un petit peu pour toi, comme vous êtes deux dans le business de G&G. La première question, c'est quoi ton objectif du moment, Julie? Et je veux entendre pas l'objectif de G&G, mais l'objectif de toi, Julie Fabre. C'est quoi ton objectif professionnel du moment?
Quand tu dis du moment, c'est à quelle tu vois, à quelle portée, sur quel horizon? Est-ce que c'est à l'instant T?
Bah, c'est à toi de choisir. Du coup, je te dirais sur la durée, si c'est un truc 1 an, 6 mois, 3 mois. Mais à l'instant T, genre ton objectif principal, celui qui t'anime le plus.
À l'instant T, et c'est pas la moitié d'un objectif, et je suis vraiment en train de travailler là-dessus, même limite, je suis limite en train déjà d'en tirer des bénéfices parce que je travaille vraiment là-dessus. C'est de me retrouver. De retrouver la raison de ma présence, ma raison d'être finalement dans cet écosystème et du coup ben dans D&G. Et ce qu'on disait tout à l'heure, l'épuisement, le travail acharné, etc. m'a fait perdre un petit peu ce pourquoi de vue. Quand tu perds ton pourquoi de vue, tu as aussi tendance à plus savoir quelle est ta zone de génie ou ne serait-ce que finalement ta zone de kiff, là où tu te sens à ta place. Et quand tu baisses trop la tête et que tu n'écoutes pas les signes, etc., et que de toute façon la fatigue est là, donc ta lucidité n'est plus tellement ce qu'elle était, tu en viens à faire les choses en mode pilote automatique, à vouloir toujours faire plus, mieux, parce que moi, mon objectif, c'est effectivement de ne pas décevoir Julia, de porter G&G autant qu'elle le porte. Et effectivement, nous, on a aussi tout cet aspect de personnes qui comptent sur nous, que ce soit dans la communauté ou nos étudiants, mais pas que. Toutes ces personnes-là, de ne pas les décevoir, etc., tu t'en oublies toi-même. Et moi, là, clairement, ces derniers mois, je faisais passer absolument toute la terre entière avant moi. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Et que là, c'est mon vrai challenge de retrouver mon pourquoi, mon rôle et ma vraie valeur au sein de tout ce que je fais tous les jours.
Trop intéressant, génial. J'adore ce moment-là dans nos vies quand on doit redéfinir pourquoi on fait ce qu'on fait. Et la deuxième question qui se cache du coup derrière la première, c'est de où ça vient cet objectif? Et je suis curieux que le sens de ma question, c'est un sens un peu plus émotionnel de pourquoi c'est important pour toi de reconnecter à ton pourquoi et au sens de ce que tu fais. D'où ça vient?
Ça vient de tous les constats que j'ai pu faire ces dernières semaines où je me sentais... Alors effectivement, la fatigue joue beaucoup parce que quand t'es fatigué, forcément, toutes tes perceptions sont changées. Donc, du coup, je veux... C'est pas mon objectif de vie de vivre dans la fatigue, dans... Tu sais, d'être constamment en haleine, on dit ça, haleine, parce que tu tires la langue et que tu sais que tu dois faire, mais finalement, ça te fait violence. Et en fait, il n'y avait que dans mon... à l'intérieur, et ce qui, du coup, irradie autour de moi, parce que ce que tu enfouis souvent ressort quand même à l'extérieur. Et quand on dit que quelqu'un est solaire, c'est parce que son sourire t'atteint, en fait. Et du coup, moi, je n'avais plus en moi que de la fatigue, de l'agacement, tu vois, tout commençait à m'énerver un peu du dégoût pour des journées qui allaient commencer, alors que je suis quand même quelqu'un de très enthousiaste et tout au quotidien. Et le fait de me rendre compte que j'étais uniquement là-dedans et que la partie plaisir, la partie sens, où je sais pourquoi je fais les choses, je sais pourquoi je me lève, et du coup, vu que je sais pourquoi et que je l'ai choisi, j'ai le sourire, j'ai l'envie, etc. Tout ça, je l'avais un peu perdu. Et je m'en suis rendu compte assez vite, j'ai laissé traîner, Et aujourd'hui, bah, heureusement, on est deux, donc il y a forcément le regard de l'autre aussi qui vient sur toi et qui te dit « je ne te reconnais plus tel que je t'ai connu », etc. C'est ce qui a déclenché cet objectif numéro un là, en ce moment.
Et pourquoi il est important pour toi, du coup ?
Ah bah parce que ça fait, c'est le sens de la vie que j'ai choisi. C'est pour prendre du plaisir, pour en diffuser autour de moi, pour voilà, parce que les compétences, etc. En fait, finalement, tu peux le faire avec ou sans plaisir, mais c'est pas ce que j'ai choisi pour moi. Donc tu vois, je pourrais très bien du coup abandonner tout ce que j'ai construit jusqu'ici si je retrouve pas le sens et le plaisir qui m'ont mené jusque là. Si j'ai perdu ça, ça sert plus à rien que je continue. Or, c'est pas mon but.
Je comprends entièrement. Merci pour ta réponse, elle est géniale, j'adore. Ça me parle de ouf. Et la dernière question rituelle, cette fois-ci, on s'est tourné un peu vers toi, on va se tourner maintenant vers les gens qui ont écouté cette fascinante conversation. Et du coup, si tu avais une question que tu avais envie de leur poser pour que toutes ces merveilleuses personnes qui sont là à nous écouter parler prennent un moment pour réfléchir à leur carrière indépendante, leur business et aussi leur vie d'indépendante et d'indépendant, c'est quoi la question ?
Question difficile. Bah, je crois que, de toute façon, je suis tellement là-dedans en ce moment, c'est que je leur demanderais pourquoi ? Pourquoi vous êtes là ? Pourquoi vous avez choisi de vivre la vie que vous menez aujourd'hui ? Et finalement, c'est pas une question qu'on doit se poser au démarrage, puis quand on est à bout de souffle ou quand on sent un coup de mou. Je pense que finalement, c'est une question qu'on devrait se poser à chacune, donc chaque jour qui se lève et aussi chaque action qu'on mène. Pourquoi ? Pourquoi je le fais, en fait ? Quel est le sens derrière tout ça ? Et quel est quel est le lien entre le but à atteindre et moi ? Quel est le lien, finalement ? Pourquoi je le fais ? Et qu'est-ce que je vise ? Et est-ce que ce que je fais va bien dans la direction de ce que je vise, du coup. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit.
C'est hyper clair et ça me parle de ouf. C'est toujours avoir ce... revenir à cet espace de est-ce que ce que je suis en train de poursuivre, ce que je suis en train de faire, est-ce que ce que je suis en train de vouloir, c'est aligné avec juste comment j'ai envie de vivre cette vie qu'on m'a offerte. Et du coup, se questionner sur le sens de ça. Sachant que, et c'est un truc que j'ai envie de rajouter, et je pense que t'en es tout aussi convaincu que moi, sachant que il n'y a pas de règle. Il n'y a rien qui dit « ça, c'est mieux que ça ». C'est en anglais, on dirait « blank canvas », c'est une page blanche.
Exactement.
Sur laquelle on dessine sur sa propre œuvre. Et tant qu'on ne se questionne pas, il y a de grandes chances qu'on soit en train de dessiner l'œuvre de quelqu'un d'autre, en fait.
Exactement, c'est une très belle image. Et en plus, je rajouterais, qu'il n'y a pas non plus d'irréversibilité derrière tout ça. C'est-à-dire que sur la page que tu as écrite, il y a moyen de gommer et de mettre un autre mot derrière ou une autre vision. Ou alors, il y a carrément moyen de tourner une autre page et de retrouver une autre page derrière et d'écrire autre chose. Jamais aucun choix n'est irréversible et tu as le droit de changer de direction, de changer d'avis et de remettre en question ce que tu as déjà construit, en fait. Et ça, c'est un deal avec toi-même. Effectivement, ça ne concerne personne d'autre, et encore moins ceux avec qui tu peux te comparer au quotidien ou que tu peux te sentir inférieur. C'est des questions qui doivent pas... Ces questions-là doivent pas rentrer dans une équation qui, finalement, toi seul fais partie de l'équation.
Trop bien. Bah, merci d'avoir ajouté ça, parce que ça me parle de ouf, et effectivement... il est jamais trop tard et il est jamais trop tôt de se réinventer et de faire basculer le chemin de vie qu'on veut choisir. Donc c'est trop cool. Putain, merci Julie pour cette conversation. Vraiment, j'ai grave kiffé. Ça me parle de ouf sur tous les niveaux et je trouve que l'endroit où on est arrivé est très touchant et très beau. J'espère que les auditeurs en pensent autant. Et si les personnes veulent continuer de suivre ton travail, peut-être en discuter davantage avec toi.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Peut-être te remercier aussi pour ce que tu as partagé. Où est-ce que je les envoie pour que ces personnes te retrouvent ?
Y a quand même deux endroits. Si c'est rentrer en contact avec moi, c'est plutôt sur Instagram, sur mon compte julie.saychees. Et si c'est pour découvrir ce qu'on fait avec Julia, consommer nos contenus, et voilà, découvrir notre univers, etc., ça sera sur le site idonthink.fr.
Yes, trop bien. Je mettrai de toute façon tous les liens dans la description de l'épisode et sur la page sur le site avec l'épisode du podcast. Merci Julie, c'était un vrai plaisir et je suis très très content qu'on ait pris le temps de cette discussion.
C'est moi qui te remercie vraiment parce que c'est un honneur et puis j'ai adoré le fond de notre discussion. Donc c'est moi qui te remercie. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés aussi.
Yes, bonne journée à tous. Ciao.
Ah, que dire de cette conversation fascinante. Autant le sujet et le fond de nos échanges sur les relations, le fait de travailler ensemble, m'ont paru si pertinents et essentiels pour nos activités à nous toutes et tous, et autant l'arrivée sur cette question du sens à la fin a vraiment couronné le tout. Et c'est fascinant parce que quand on voit l'entreprise de Julie et Julia de l'extérieur, leur contenu, leur présence toujours si joyeuse et rassurante sur les réseaux et dans leur espace communautaire, en fait on est si loin de se douter qu'à l'intérieur de Julie, il y a un vrai questionnement de sens qui se joue. Et ça me rappelle à quel point notre perception des choses de l'extérieur est complètement biaisée, complètement incomplet. Et on peut pas s'arrêter à ce stade-là. On peut pas juger un livre par sa couverture, ni une personne par ce qu'elle affiche et ce qu'elle montre sur les réseaux sociaux, par exemple. Et ce questionnement du sens, de pourquoi on fait ce qu'on fait, du fait de donner une direction à ses actions, à ses projets, et a fortiori sa vie, c'est quelque chose qui, à mon sens, relie l'humanité entière. Et comme ça nous touche tous et toutes, je pense qu'on aurait beaucoup à gagner de donner plus de place à ces questionnements dans nos vies, de notre enfance, à notre éducation, à l'école, au lycée, à l'université, et notre vie professionnelle, même quand on arrive dans un nouveau job, qu'on se questionne là-dessus, et aussi sur tout ce qui arrive après dans nos, je l'espère, longues vies. Et d'ailleurs, j'ai écrit récemment un petit texte sur mon site que j'ai nommé « Petit manifeste du droit de vivre pleinement » qui fait un peu écho à ces réflexions. On a tous eu la chance incroyable de nous voir offrir une poignée d'années de vie sur cette terre et à mon sens, notre responsabilité, c'est de choisir et de se questionner qu'on veut en faire. Et sur ces paroles, je n'ai plus qu'à te souhaiter de profiter du chemin. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.